Nous avons beaucoup de news concernant le cinéma chinois ces derniers temps, et notamment des vieilles connaissances qui sont comme ça, réapparues, dont John Woo, dont nous avons eu des nouvelles de Manhunt, son dernier film, dont le casting se précise, Elvire.
Voilà, donc pour revenir un petit peu en arrière, en fait, il y a tout juste un an, John Woo a annoncé préparer un remake du film japonais Manhunt, c'est un film japonais qui est sorti en 1976 et a été réalisé par Sato Junya. Il faut savoir que c'est un film assez important en Chine, puisque c'est le premier film étranger à avoir été, avoir une sortie autorisée en Chine après la révolution culturelle. Et donc un an après avoir annoncé travailler là-dessus, John Woo a parlé du casting. Donc pour l'instant on connaît juste les têtes d'affiche, qui sont au nombre de deux. Zhang Hanyu, qui a notamment était présent dans la bataille de la montagne du tigre, en Tsui Hark, et le japonais Fukuyama Masaharu, qu'on a vu dans Tel père, tel fils, qui à la base est un chanteur et qui a tourné aussi dans quelques films. Donc voilà, après, pas de date de sortie pour l'instant annoncée.
Le tournage a commencé? Ou on est encore au terme de la pré-prod?
Je n'en sais strictement rien.
D'accord.
Merci Victor. Et la pré-prod encore. Ouais.
Merci de me coincer sur des questions.
comment vous le sentez, ce retour de John Woo qui a pas tourné depuis
Moi,
son diptyque déjà n'est pas sorti en France, hein, faut bien savoir. On sait qu'il a fait un grand film de guerre romantique en deux parties.
Qui a
un gros bide et qui, moi, j'ai pas eu de bons échos sur le film. Je suis quand même curieux de le voir parce que sur la bande-annonce, on y revoit certaines flamboyances de John Woo. Le problème de John Woo sur un film romantique, c'est que les personnages féminins, ça n'a jamais été son fort. Voilà. Donc,
Il y a des belles bromances.
Oui, voilà, des bromances. Voilà. Mais bon, vu qu'il se reconnaît dans du cinéma de Shang-Chi, c'est un peu normal. On va revenir à un genre de cinéma d'action. Après tant d'années, on peut attendre que ça. Voilà, je ne lui souhaite que de réussir. Je serai le premier à être dans la salle de cinéma pour aller voir le film. Hein. Donc voilà, toujours présent.
Une autre résurrection probable, c'est Armagno, qui apparemment n'arrête pas de tourner en ce moment. Et donc nous avons vu la bande-annonce de d'un de ses trois projets.
Il y en a beaucoup.
Et cette bande-annonce, c'est
Nessun Dorma.
Merci Elvire, je te laisse la présenter.
Oui, alors en fait, donc, pour parler des nombreux projets qu'il a, là tout récemment est sorti The Mockfathers. Il travaille sur The Sleep Curse. Il va également tourner dans un film là en tant qu'acteur. Donc il n'arrête pas. Et on a eu le premier trailer de Nessun Dorma qui. Je crois que le film est passé à le festival de Hong Kong très récemment. Donc c'est un film de catégorie 3. C'est bien la catégorie 3, mais j'ai l'impression qu'on met quand même beaucoup de choses dans la catégorie 3 en fait, même si c'est.
C'est quoi la catégorie 3 ?
C'est censé être des films extrêmement violents. Mais
oui, du cul, du sexe.
Ça, c'est quand même un peu. Il y a quand même des films de catégorie 3.
Je vais demander à Yannick, qui a eu plusieurs débats sur la catégorie 3, de nous définir la catégorie 3 de manière plus précise.
Bien sûr. La catégorie 3 est une classification, donc ce sont des films à tendance adulte. Donc en règle générale, ce sont des films soit violents, soit extrêmement glauques. Donc qui peuvent se permettre d'aller à très loin sans aucune censure.
D'accord. Donc le film de...
Merci Elvire.
Le film de Hermanios est un film de catégorie 3. Après savoir s'il sera extrêmement violent ou s'il est juste un peu... Malheureusement, la bande-annonce ne donne pas énormément d'éléments dessus. Donc pour résumer, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme très belle, très naïve aussi, qui se prépare à se marier avec le plus riche célibataire de sa ville, mais qui est en fait amoureuse d'un autre homme, apparemment un prodige des mathématiques.
Donc, entre guillemets.
C'est l'élément un peu absurde du synopsis, donc on pense qu'il va y avoir un rôle, que les maths auront quand même un rôle dans le film, parce que sinon on ne comprend pas trop pourquoi ils nous le disent. Et elle se fait attaquer un soir chez elle et se retrouve, elle se réveille le lendemain nue, attachée à un lit. Donc voilà, après séquestrée, se fait violer, elle arrive à s'échapper. Donc, certainement qu'il doit y avoir... que le prodige des mathématiques a dû fomenter un plan machiavélique.
Il y a Anguille
sous roche. Peut-être,
hein, nous ne savons pas.
En quelques minutes, on a quand même une ambiance assez craspec.
Ah oui, quand même, oui. Ça n'a pas l'air d'être fun.
Non.
C'est sûr.
Marc, tu as vu la bande-annonce tout à l'heure. Qu'en as-tu pensé comme ça?
Ça a l'air plutôt alléchant, si j'ose dire.
Oh, le rire grand.
Mais quand on voit la scène dans laquelle la femme est attachée au lit, aux quatre montants du lit.
Nue, donc.
Nue. Ça fait penser à une scène de quand l'embryon part braconner de Wakamatsu. Là, il n'y avait pas de fouet, par contre, mais peut-être... Dans la bande
annonce,
dommage, on croise les doigts.
Mais peut-être dans le film, oui.
Ça claquait pas assez.
Bon, en tout cas, on la voit se faire frapper quand même à un moment donné.
Ça va, c'était la meilleure partie de la bande annonce.
Mais c'est pas sur le lit.
Mais en tout cas, esthétiquement, ça a l'air plutôt bien réalisé.
C'est assez léché,
oui.
Plus là, quoi.
Oui,
de toute façon, Hermagno, c'est quand même un touche à tout. Bon, la vue, il produit, il réalise. Il réalise pas que la fille est très jolie 3, parce qu'on là, forcément, on connaît ses grands méfaits dans le genre, avec des films comme Ebola Syndrome, avec un Anthony Wong qui dépasse toutes les bassesses qu'on a pu voir au cinéma, et puis The Untold Story dans ce rôle de cannibale culinaire, on va dire.
Tous les cannibales sont culinaires.
On l'avait vu récemment, enfin, il réalisait quand même deux films sur le Hitman, donc deux concurrents des films de Wilson Yip, d'ailleurs notamment celui qui est très réussi avec Anthony Wong qui reprend le rôle de Hitman, qui est pour moi le meilleur film qui a été fait sur le personnage, hein. Voilà, qui est vraiment très, très intéressant. Il a même été le chef opérateur de Sri Ark sur Time on Tide, c'est lui qui tenait la caméra. Donc voilà, mais... il semble retourner à ses premiers amours, mais c'est vrai que en ce moment, il est pris d'une frénésie de travail, on ne sait pas du tout ce qu'il lui prend, enfin bon...
En tout cas, on a parlé de John Woo, on reparle d'Hermagno, qui n'a jamais arrêté, mais en tout cas, voilà, qui revient avec des projets qui rappellent ce qui est connu de son cinéma.
Ouais, du moins, il a fait parler de lui au film art. Après, est-ce que les films vont arriver chez nous? Ça, c'est toujours une autre histoire.
C'est une autre question dont on va parler dans quelques minutes. Mais avant, je voulais poser une autre question, justement, entre Hermagno, John Woo, Suir qui a un nouveau projet, Sammo Hung, Junito qui a également donc de nouveaux projets en route. Quand Yannick parlait justement du fait que le cinéma de Hong Kong lui manquait cette folie, est-ce qu'on ne la retrouve pas dans certains projets qui sont annoncés et avec des personnes qui faisaient justement ce cinéma il y a 10, 20 ans?
Les noms reviennent, mais ces gens-là ils ont vieilli, leur cinéma il a changé, le contexte économique a changé, et on voit leur dernier film, à part Tsuyar qui arrive à faire un petit peu sa petite révolution tout seul avec les moyens de la Chine continentale, mais voilà, on a vu avec Jolito, avec Drogue War par exemple, où il y a un petit entre-deux où il est un peu entre le cul entre deux chaises. Je pense que ça va être un peu
pareil. Il a les impératifs de la Chine continentale aussi qui sont
derrière. C'est ça que je veux dire, quoi.
Il avait un peu à les contourner quand même dans Drogue War. Il y a certaines choses qu'il n'avait pas le droit de filmer, des endroits où il est interdit, il les quand même.
Mais après, dans le propos, c'est quand même les Chinois qui ont le bon rôle, les Chinois continentaux qui ont le bon rôle, les Hongkongais qui sont corrompus et.
Oui, ça c'est faire autrement malheureusement.
Oui, c'est ce que je dis. C'est que leur cinéma est altéré et qu'ils n'auront pas forcément le même. Voilà, c'est pas le même compte. Oui, je suis étalé sur la vérité, comme on dit.
Exactement.
C'est n'importe quoi. Clairement, maintenant, quand ils Yannick. Font des films, ils doivent faire des petites choses discrètement, comme Tsuar qui arrive toujours un petit peu à égratigner dans son coin, mais c'est beaucoup plus sage, beaucoup plus discret qu'auparavant.
Et John Woo, voilà, depuis quand on l'a pas vu repartir dans des... le John Woo des années 90,
les trois royaumes, c'est quand même bien.
Ouais. Ouais, bon. Si. Chafou.
Après, c'était pas le plus subversif non plus de jeu de mots. Non, c'était comme.
Mais par contre, en termes de mise en scène, ça, on retrouvait.
Oui, ça envoyait un peu.
Voilà, c'était quand même.
Il est très doué en termes de mise en scène, même quand il fait des mauvais films comme aux États-Unis, comme Wind Talkers, il reste des éléments de mise en scène.
Ah oui, bien sûr.
Et Paycheck, alors.
C'est vachement bien.
Paycheck, il est très bon moment de mise en scène.
Paycheck, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais
c'était pas mal.
Broken Arrow, parlons-en.
Et est-ce que vous voyez, là on parle d'anciens cinéastes de Hong Kong, est-ce que vous voyez une relève possible de cinéastes de Hong Kong qui pourraient travailler en Chine continentale ou autre? Quel serait l'avenir de ce cinéma?
Par exemple Wilson Yip, mais enfin il est là depuis une dizaine d'années maintenant, Wilson Yip qui a fait la trilogie Ip Man ou sinon SPL ou Flashpoint, enfin c'est genre... il a un peu fait connaître Donnie Yen d'ailleurs, enfin Brier. Ben, il peut être la relève de ce genre de ce genre de cinéma.
Après c'est un bon faiseur, mais il a pas fait aucun de ses films qui est marquant.
Oui, c'est vrai qu'il a pas filmé, mais il sait par exemple filmer l'action et donner
il manque quelque chose quoi.
Flashpoint et SPL c'est quand même super efficace quoi, pour le coup.
Flashpoint passager
c'est quand même efficace. Les scènes d'action en tout cas sont...
Mais il manque quelque chose quoi.
Il y a quelques jeunes faiseurs qui débarquent mais qui ne sont pas hyper intéressants. Il y a un cinéaste, j'ai pas encore vu ses films, donc c'est difficile de dire un pronostic dessus, mais en tout cas les bonnes annonces ont l'air assez prometteuses, c'est le scénariste The Grandmaster de Wong Kar-wai. Et il a fait deux films d'arts martiaux.
The Sword Identity, on l'avait vu.
Ah, Sword Identity.
Oui, voilà.
Qui nous avait pas enchanté. Par contre, son approche est super intéressante parce qu'il revient à des bases. C'est très épuré.
Éploré est disponible chez Elephant Film, je vous laisse en parler.
C'est très bien.
Les combats sont très épurés, c'est très. Voilà, ça revient vraiment aux fondamentaux. Ouais. Mais après, c'est
pauvre. Il a fait un film qui s'appelle The Real Grandmaster ou je sais pas quoi. Ça a l'air plutôt intéressant.
Le VRP de luxe, Victor Lopez.
Il y a du spam, non je...
Et les pop-up qui se rejoignent comme ça.
Non, autiste.
Elle mettait un bloc
alors,
sur
Alors, pour recentrer le débat, donc on a parlé un peu de cinéma.
Pour recadrer, c'est pas pour recentrer.
On va recentrer aussi sur. On va recadrer.
Recentrer.
Là, ça mérite un peu de.
De centrage.
Elias, je me tourne vers toi. Est-ce que ces films déjà de Hong Kong, deux cinéastes de Hong Kong peuvent marcher au box-office chinois et que vont voir les Chinois en salle aujourd'hui?
Alors, les Chinois en salle aujourd'hui, enfin du moins depuis le début de l'année, en fait, le film chinois dont on parle depuis sa sortie il y a déjà 7 semaines, c'est The Mermaid de Stephen Chow, qui est en fait le, je pense, plus grand succès. C'est le plus grand succès chinois. Début de l'année, je pense depuis assez longtemps, parce que pour donner un comparatif, il est sorti une semaine après Kung Fu Panda 3. Et en fait, c'est un comparatif, c'est un film qui a très bien marché, qui après 53 jours est encore au box-office chinois dans le top 10. Et en fait, Kung Fu Panda 3 a en donc 53 jours accumulé des recettes de 150 millions de dollars. The Mermaid, qui est resté en salle une semaine de moins, on est déjà à 530 millions de dollars. C'est-à-dire 5 fois plus.
C'est hallucinant.
C'est énorme, mais un mois et deux semaines, il y a eu une semaine très chargée où sont sortis à la fois The Mermaid, donc, mais aussi The Man from Macao avec Chow Yun-fat, qui est une série très commerciale et très populaire en Chine, qui marche très bien.
C'est très con.
Et c'est très con et paraît-il très mauvais, je n'en sais pas plus.
Le 2 m'a fait marrer.
Monkey King 2 et Kung Fu Panda 3, qui est sorti juste la semaine d'avant, et The Mermaid a totalement explosé les trois autres films avec en 5 fois plus, je crois, ou 5 ou 3, je crois que c'est 3 fois plus, pardon, excusez-moi, de bénéfices que les trois autres, qui pourtant ont des films qui étaient faits pour marcher et qui ont tout pensé que Monkey King allait marcher en Chine, par exemple. Et donc, The Mermaid, c'est le grand succès de ce début d'année, je pense le plus grand succès de l'année, je vois pas un autre film prendre sa place. Et ça fait donc déjà 6 semaines qu'il est dans le top 10, là, actuellement, il continue de marcher, il continue de ramener du public et...
Mais nous, on veut le voir aussi.
Nous, on veut le voir aussi. Pas
là. Ils
en parlent aussi, absolument. Et aucune nouvelle. Ni...
Non, c'est Columbia Tricer qui a les droits.
Aucune nouvelle, ni en Occident, ni dans les autres pays.
C'est pas métropolitain, c'est déjà ça.
Il n'y a aucune trace de film en Chine. Pas de film en Corée, pas de film au Japon. Aucune trace de film dans d'autres pays.
Non, je crois que c'est Columbia Vaté qui a les droits et il semblerait qu'ils vont faire un montage international.
Ouais, je pense. Vu l'argent que ça a brassé, ça m'étonne qu'ils qu'ils le vendent pas ailleurs. Quoi.
Un film qui a un demi-milliard de dollars en 42 jours.
Bah là, c'est pour ça que les majors américaines elles sont commencent à se frotter les mains.
C'est justement une des
thématiques sur Twitter pour faire un remake.
Ah, voilà, Crazy Kung Fu, ils n'étaient pas sortis à l'époque.
Oui, Crazy Kung Fu était sorti à l'époque. Shaolin Soccer aussi. Et c'était le genre de film qui pouvait sortir en salle. Qui, il y a 3 ans,
CJ7 est sorti aussi.
Avait une sortie en DTV, c'est-à-dire en direct vidéo, donc était disponible en DVD ou en Blu-ray, et qui aujourd'hui ne sortent plus du tout, à moins d'un miracle. Donc comment effectivement voir en France ces films qui sont des succès au box-office chinois?
Avistaz.
Qui s'appelle Avistaz
maintenant. Avistaz, oui.
Voilà, Avistaz.
Marc.
La solution.
Ben, Internet, quoi.
On en revient toujours en même.
Enfin, on peut retrouver ces films-là avec des sous-titres anglais dans le meilleur des cas. Mais sinon, à part ça, non, ça sort pas en salle. Après, certains festivals, mais bon, ouais, c'est quand même assez rare. Il n'y en a pas, il y en a pas souvent des festivals.
Il sera peut-être au festival de films chinois.
Il sera.
Surtout
un gros succès comme ça.
Yannick, sur cette visibilité du cinéma chinois en France.
Effectivement, ça reste relativement compliqué. Après, je pense qu'il faut être patient, et je vois par exemple de plus en plus de films chinois qui arrivent sur Netflix, des trucs pas récents, mais je pense que ça peut, voilà, même si on peut avoir un gros décalage, on peut espérer qu'au fil du temps on aura un beau catalogue. Et sinon, bah, effectivement, les festivals, je veux dire, au BIF par exemple, il y aura pas mal de films chinois ou taïwanais qui seront proposés, donc voilà. C'est à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a eu à une époque des grosses sorties en vidéo, avec il y a eu une vague de catégorie 3, il y a eu tous les Show Brothers qui étaient ressortis à un moment, mais effectivement ça se passe de plus. Mais quand je vois Assassin qui sort en salle, qui a une belle visibilité, qui a un beau succès, je pense que tout n'est pas perdu.
Bah, c'est vrai que The Assassin reste un film d'auteur, donc apporte à la fois le public du Wuxia qui peut s'y intéresser un peu par mégarde, et surtout le public qui va voir le film parce que c'est un film qui est primé à Cannes. Oui, le paradoxe du téléchargement, c'est que c'est aussi le téléchargement qui a complètement coulé le marché du DTV en France. Et dans pas mal de pays. Ce sont des films, par exemple, qui sortent un petit peu en Allemagne, un petit peu dans des films frontaliers, où le téléchargement illégal est moins important. Après, est-ce que c'est forcément l'avenir, la vidéo? C'est pas sûr. Peut-être qu'effectivement, le e-cinéma, d'autres possibilités qui réduisent la possibilité d'avoir un film entre sa sortie dans le pays d'origine et la visibilité sur des plateformes légales, peut être une solution, même si on n'est pas encore du tout.
Bon, on revient toujours au même problème. Est-ce que ça intéresse
vraiment
les gens
pour leur
les gens.
Et puis les
gens. On en revient toujours à ça.
Oui.
Justin.
Et puis le problème, c'est que quand il y a effectivement ces films qui finissent par sortir en scène, personne n'y va. Quoi.
Non, mais personne n'y va.
Le dernier Tchouillard qui a fait un bide complet. Il y a Détective D2 qui est sorti il y a 12 ans. Personne n'y a été.
Il y a des raisons pour ça, et c'est peut-être pas non plus un public qui va en salle.
Non, mais je veux dire, ça n'incite pas à. Quand il y a un gros succès en Chine, ça n'incite pas à le sortir en salle quand on voit qu'il y a des tentatives qui ne marchent pas.
Yannick,
il y a un Détective D2, est-ce qu'il a une bonne visibilité en termes de communication?
C'est pas sûr.
Est-ce qu'il n'est même pas sorti en Belgique, par exemple?
Et sans les Belges.
Même la bataille de la montagne du Tigre, le marketing était complètement bidon. Quoi.
Voilà, il est sorti en plein milieu de l'été.
C'est ça, quoi.
Mais bon, c'était. Voilà,
ils sont frileux, quoi. Ils sont frileux à sortir ce genre de
jeu. Je Blu-ray, j'imagine que ça refroidit. Tu trouvais même chez Metal Human.
Oui, bien sûr.
Et
c'est
aussi ça le problème.
Ces films-là. Je veux dire, la bataille de la montagne du Tigre, Détective D2.
Ouais, mais je veux dire, ça refroidit pour un distributeur de tenter une sortie seule.
C'est vrai que la difficulté est à partir du moment où les gens qui nous écoutent l'ont vu. Non, mais là, c'est vraiment les lecteurs d'Istadia, c'est-à-dire les gens qui sont les amateurs, les cinéphiles qui s'intéressent au cinéma asiatique ont déjà vu le film par d'autres biais parce qu'il est déjà sorti en vidéo en Chine. Il est déjà trop tard pour avoir une sortie salle en France. Si on veut nous motiver, les motiver, mais c'est la même chose parce que Ouais, mais sinon, on va voir un film mondial, il faut le sortir de manière quasiment simultanée. Maintenant, ça me semble absurde de ne pas avoir une sortie mondiale pour n'importe quel gros film.
Je suis désolé, tu vois un film sur ton écran d'ordinateur. Ouais.
Non, mais là, on est d'accord.
C'est quand même pas pareil que le voir en salle.
Non, mais on est d'accord.
Non, mais
quand tu télécharges un film, tu peux passer ta télé maintenant.
Ouais, mais ça ne vaut pas le coup.
Non, mais je suis absolument d'accord. Yannick, mais c'est un peu le serpent qui
est. Mais ça ne donnera jamais une salle.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où le film sort beaucoup plus tard, par exemple là, si The Mermaid, avec une, voilà, un remontage international, sortait dans un an en France, ou à l'international,
trop tard, ça ne marcherait pas.
L'aurait déjà vu, c'est-à-dire le public visé à la base, qui pourrait en parler, qui pourrait le prescrire à d'autres personnes, l'aurait déjà vu. Donc de toute façon, le grand public n'irait pas, puisque les gens avec qui il faut communiquer à la base... ce sont les gens qui sont intéressés et qui l'ont déjà
vu. S'ils veulent le sortir en scène, il faut qu'ils le sortent maintenant.
Oui, c'est, voilà. Absolument.
Non, puis ce genre de blockbuster, est-ce qu'il y a un public en France pour ce genre de blockbuster?
En fait, moi, je suis quasiment sûr que tu sors The Mermaid, que tu mets sur l'affiche par le réalisateur de... Jackie Kung Fu et Shaolin Soccer.
Ça commence à dater
Shaolin Soccer. Ils ont oublié
Shaolin Soccer. J'avais 8 ans, je me rappelle encore. C'est deux films de mon enfance, il y a marqué...
Je pense que c'est à 15 ans, je suis pas sûr.
Il y a plein de gens
à qui on parle, qui connaissent pas forcément le cinéma asiatique, enfin qui s'intéressent pas plus que ça, et qui reparlent de Shaolin Soccer comme ça,
mais ça parle de quoi,
ça a vraiment marqué à l'époque, hein.
C'est la petite sirène, je crois, hein.
Ouais, c'est une histoire de nana qui se transforme en sirène.
Ah, super.
Elias, tu ne connais même pas. Non, mais en décalé, en fait.
Ah, c'est pas chaud, quoi.
C'est hyper commercial.
Complètement débile.
C'est super débile.
Non, c'est en ça aussi que le succès un peu en contrepoint de The Assassin montre que, quelle que soit la nationalité du film, c'est aussi la manière dont il est présenté qui est extrêmement important. Et je reviens là-dessus, sur le fait de la simultanéité d'une sortie internationale de nos jours, ça me semble être une évidence.
Par exemple, The Assassin est sorti il y a combien de temps en Chine ?
Marat Kaufman.
C'est sorti quand en Chine ?
The Assassin.
C'est sorti un peu avant.
Après, en fait, ce qui est drôle, à remarquer, c'est que c'est aussi l'inverse, ce qui est totalement vrai. C'est que, par exemple, il y a justement la scène où tous les films sont sortis intéressants, c'est-à-dire Monkey King, The Mermaid, etc. Il y a Rush qui est sorti, le blockbuster avec Daniel Brühl et Chris Hemsworth, qui est sorti en France il y a environ un an, qui est sorti en Chine cette année. Il y a The November Man qui est aussi dans le top 10, qui sort un film avec Nicolas Cage, qui est sorti il y a pareil un an et demi en France, et un an et demi donc aux USA, qui sort en Chine, et ces films marchent en Chine par contre. Et c'est remarqué que, autant on n'arrête pas de dire que les films chinois devraient sortir en même temps en France, mais à l'inverse c'est totalement faux, et pourtant ça marche quand même.
Comme on s'en fout, c'est en Chine, quoi.
Ouais. Enfin, non, mais c'est une autre...
c'est une autre politique, mais je trouvais que c'était important et rigolo à...
L'autre expérience qui a été assez intéressante, c'était la sortie de Monkey King 2, dont nous avons parlé lors du précédent podcast, de la qualité du film, mais la distribution est assez intéressante, n'est-ce pas, Martin ?
Oui, en effet. Donc, Shane Lion a en tout cas entrepris un test cette année, à savoir de sortir simultanément dans tous les pays, enfin du moins en Europe, aux États-Unis et en Chine.
Mais pas en Belgique.
Voilà, mais on en parlera justement aux endroits. Le The Monkey King numéro 2. Donc, ils ont fait une grosse promotion. Ils l'ont sorti en grande pompe, Ils ont en tout cas fait une avant-première à Montparnasse pour le film. Ils devaient à l'origine avoir Jackie Chan pour présenter le film. Ça ne s'est pas fait. Enfin, du moins, il l'a fait via vidéo, mais pas en personne.
Mais du coup, ils ont envoyé une petite actrice que personne ne connaît.
Oui, voilà, donc, et il y a eu une actrice.
Martin était content, en tout cas.
Oui, j'étais content, exactement. Voilà, bah oui, mais il faut.
T'as ramené les
macarons ? Et ils ont invité une actrice donc, voilà, qui joue un troisième ou quatrième rôle dans le film, faire la promo du film. Voilà. En tout cas, c'est un test, mais il est clair que voilà, c'est des films qui veulent sortir essentiellement pour les communautés chinoises pour l'instant. Et après, voir comment ils peuvent cibler pour attirer le public européen.
Et est-ce que ça a été probant comme, comme test? T'as eu des retours dessus ou...
Pour l'instant, oui. Non, le problème c'est qu'ils l'ont lancé beaucoup trop tard, enfin le projet est arrivé beaucoup trop tard, donc le temps de trouver des salles et tout ça c'était un peu compliqué.
Il n'est pas resté longtemps.
Voilà, ils voulaient le publiciste n'a pas pu l'accueillir parce qu'ils avaient des problèmes de projection 3D, donc c'était pas possible. Donc c'était uniquement dans un circuit assez réduit de chez Gaumont. Donc voilà. Donc,
même en France, Yannick, t'inquiète pas, c'est comme en Belgique, on l'a relativement peu vu.
Voilà.
Nicolas,
zéro problème. En fait, moi, au-delà de ça, je voulais parler, on parlait tout à l'heure donc, du e-cinéma et du cinéma en général. Et, est-ce que finalement la solution ne serait pas, puisqu'on se plaint toujours que certains films sortent sur un parc de salles très réduit, est-ce que la solution finalement ne serait pas de faire une combinaison des deux, pas faire que du e-cinéma ou une sortie salle, mais faire une espèce de combinaison où, puisque vous ne pouvez pas avoir un parc de salles assez grand pour sortir le film, sortez-le quand même en salle et sortez-le en même temps le même
en fait,
jour.
La chronologie, alors ça existe déjà, je crois, pour certains. La chronologie des médias est très compliquée en France et empêche ce genre de.
C'est ça le problème, il faudrait revoir un peu la législation.
Sur certains films.
Mais Netflix l'a fait à l'international sur Tigre Dragon voilà. 2, il y a une sortie en Chine et ouais. Une mise en ligne sur Netflix.
Pourtant, il y a possibilité de s'arranger parce qu'il y a Arte, il y a eu plusieurs films sur Arte qui pouvaient être diffusés la veille. Ou quelques jours après, peut-être à la télévision, qui sortaient en salle.
Alors, c'était des films très marges, plus tard. Ils les ont considérés comme séries ou comme téléfilms voilà. Lors de leur diffusion.
Et c'était dans le cadre d'une franchise bien particulière qui était tous les garçons et toutes les filles de mon âge.
Alors,
ça on remet à l'histoire. Même eux, il y a quelques années, sans
remonter en chinois,
ils passaient les films sur des émotions.
Dans les années 2000, il y a eu des films sortis comme ça.
Ils le font des fois, ils montent des films en avant.
Aujourd'hui, ça n'est plus comme avant, ça. C'est surtout des films français qui...
Oui, non, c'est ça.
Des films
comme Petit de Milowski par
exactement.
Exemple.
Mais il y avait une distinction, c'était la version téléfilm.
Oui, oui c'est télé, ça.
C'est la version film qui sortait aussi.
Mais ils avaient commencé à jouer sur
un nombre de mois, je crois, avant.
Oui, bah oui, sinon, on est, effectivement, les diffuseurs sont bloqués par.
C'est la législation qu'il
faut revoir.
Revoyons le droit. Voilà, de toute façon, il y a tellement de trucs à revoir en France que. Ça pue tellement la poussière.
Ne
parlons pas politique. Les gens alors.
Sinon ça va se barrer en France. D'ailleurs le ministère de l'Éducation nationale.
Attends,
bloquons les facs.
Et le travail.
Ils ont 30 000 trucs à voir et les seuls trucs qu'ils revoient c'est n'importe quoi.
De toute façon les politiciens tous les mêmes. C'est blanc bonnet, bonnet blanc.
Victor, il y a plus d'or maintenant quand même, Victor.
Le cinéma chinois a divers problèmes de visibilité, politique, économique, d'exploitation. Pour revenir et recentrer le débat, est-ce que finalement la meilleure solution pour voir des films chinois en France ne sont pas les festivals
en Chine.
Ou partir en Chine. Voilà, on a quand même quelques festivals en France qui nous permettent d'avoir une fenêtre sur le cinéma chinois, Elvire.
Bien sûr. On en a un vrai, enfin, dédié vraiment au cinéma chinois, le festival du cinéma chinois en France qui a lieu
mois de mai,
toujours, ça commence toujours pendant le Cannes.
On n'a aucune information encore sur la programmation.
Non. Oui, mais bon, je sais. Et ce qui continue tout le mois de juin en province. Ouais. Il y en a un deuxième, en fait, de festival, mais auquel on n'est jamais allé, qui a une programmation incompréhensible, un site internet incompréhensible, mais je fais quand même un peu la pub. C'est le festival du cinéma chinois à Paris. Alors, celui-là, ouais. Je n'y comprends rien, puisque le site est à moitié traduit. Il y a une moitié en français, moitié anglais, moitié chinoise, c'est incompréhensible.
C'est très très mal organisé, comme il arrive, donc voilà. L'avantage c'est que dans ce festival là ils passent des classiques.
Oui, mais alors message au festival, faites un vrai site internet.
Oui, pas que voilà. Ça. C'est...
Les deux qui nous écoutent.
C'est pas grave.
La programmation, moi je me souviens qu'avec Anthony Yannou, il est allé voir des documentaires chinois et en réalité il ne passait que des morceaux. En réalité il est passé pas entier.
C'est original ça.
Voilà, donc il y a bon et à côté hyper frustrant. Donc voilà.
Il y a un vrai festival.
Il y a un vrai festival donc en fait.
En réalité, il y a une scission au sein du Festival du film chinois à Paris. C'est que le type travaillait dans ce festival-là et il s'est barré et il a créé son propre festival.
Son propre festival.
Ouais, c'est
et donc le Festival du cinéma chinois en France, qui...
Il est très mal placé dans l'année.
Qui est mal...
Il est bon en Cannes.
Oui, il est pas en Cannes, mais tout le monde ne va pas à Cannes.
Oui, mais il y a plusieurs.
Une bonne partie de ceux qui peuvent faire de la pub officielle sont en Cannes.
Ouais, mais il y a plusieurs diffusions quand même, les films passent plusieurs fois.
Oui, c'est là.
Donc c'est un festival de, voilà, non, qui permet.
Si tu veux faire un festival sans aucune couverture médiatique, tu le fais pendant le festival de Cannes.
En même temps, quand tu vois les films qui.
C'est un festival qui est très, très, très sponsorisé par l'ambassade de Chine en France. Il n'y a que les Chinois qui vont.
On revient au caractère politique.
On revient au caractère politique du cinéma chinois, toujours.
On sent à Shanghai quand on va voir les films en salle. Quoi.
Et il y a assez peu de films sélectionnés, une dizaine, donc, qui durent. Enfin, sur Paris, il doit durer quasiment un mois, donc c'est vraiment possible de tous les voir. En général, on a un, voire deux, enfin, un bon film, voire un deuxième potable. Et le reste.
Grosse comédie romantique, bien mielleuse, bien.
Sirupeuse.
C'est ça.
Et ils arrivent quand même à dégoter même les films d'action pourris.
Stevia.
Alors que. Parce qu'en fait, Chine, vu par la Chine, dit Hong Kong.
En fait, c'est que les valeurs.
Ils pourraient avoir des films hongkongais. Bon, parce que ça existe. Mais ils arrivent quand même à trouver les mauvais.
Mais ce sont des films qui fonctionnent.
Ouais, et White Storm, il y a deux ans.
Ce sont des films qui fonctionnent en Chine.
L'idée, c'est ça. C'est
Nick Cham et White Storm.
Ouais.
Et Rigola. C'est Rigola.
Pardon ?
Il y a Nick
Cham.
C'est possible.
En
fait, la démarche du festival, c'est de montrer le cinéma qui fonctionne en Chine.
Voilà.
Ils aiment la mauvaise.
Donc, pour le critique du cinéma ou pour des gens qui travaillent sur East Asia, c'est très bien.
Mais c'est intéressant de voir ce qui fonctionne.
Oui.
C'est déprimant aussi de voir que.
C'est autre chose.
Au festival du film coréen, ils fonctionnent en Corée et c'est super bien.
Oui, mais maintenant.
Non, il y a une vraie politique. Vu ce qui est
sorti cet été en Chine, il y a peut-être des trucs. Il y a The Ghostly Tribe qui est sorti cet été, qui est cartonné apparemment.
Je suis pas sûr de le voir.
Qui est avant Mojin, dont j'ai parlé tout à l'heure dans Box Office. Bah, après qui est la Mojin.
Je suis pas sûr qu'il soit. Non, franchement.
Bah, mais c'est
chaque année, il y a des très bons films qui fonctionnent au Box Office, ils sont jamais sélectionnés au Festival du Cinéma.
Bah ouais, mais les sélectionneurs, je sais pas ce qu'ils ont. Mais
je sais pas non plus.
Pas de drogue.
Mais ils font une conférence de presse, tu vas peut-être leur poser la question, leur dire bah,
il y a ça, 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 et
la conférence de presse qu'ils font est toujours avant l'avant-première, donc le jour même du festival, et c'est une cérémonie mondaine en fait, avec 2-3 grandes stars, et c'est pas le moment, parce que j'y suis jamais allée, mais c'est pas le moment où les journalistes peuvent se permettre de poser la question, de dire mais pourquoi.
En fait, c'est un festival de cinéma officiel, c'est tout.
C'est ça,
exactement, c'est une vitrine du cinéma officiel chinois.
Oui. Et il y a une très très grosse avant-première à chaque
comme
fois.
Comme ça existe dans certaines cinématographies.
Avec une grosse star.
Avec Monkey King, en fait, qui était passé.
D'ailleurs, c'est comme quand il y a une différence qui va dans le monde, parfois tu trouves un certain film qui représente une différence.
Là, toujours
bien sûr,
toujours meilleur que ce qu'on fait.